Quand j'allais sur ces tournois, je faisais des photos et je les vendais à des particuliers. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Tennis de France. Donc, j'avais mis des annonces en disant, voilà, je vends photos Evert, Graf, Becker, Edberg, etc. 10 francs la photo. Et comme ça, je me payais mes petits voyages.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du Stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode, on va parler d'un des sports que j'aime le plus regardé, le plus pratiqué, même si mon talent est très largement discutable. Ce sport, c'est le tennis. Et nous allons en parler avec celle qui, selon moi, en saisit le mieux la beauté, la photographe Corinne Dubreuil. Si vous vous intéressez un peu à l'actualité du tennis ou que vous suivez certains joueurs sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de son nom. On lui doit la plupart des plus belles et mythiques photos sur le circuit. À titre d'exemple, elle a immortalisé 19 des 20 titres du Grand Chelem de l'immense Roger Federer et a commencé à photographier Amélie Mauresmo à ses tout débuts, lorsque la joueuse avait seulement 11 ans. Dans cet épisode, elle nous raconte notamment comment sa rencontre avec une joueuse va lui donner l'envie de plaquer ses études pour dédier sa vie au tennis. Comment son rythme de vie de dingue, finalement pas si éloigné de celui des joueurs, requiert une condition physique à toute épreuve. Et pourquoi les femmes sont encore trop peu nombreuses à faire ce métier. Mais c'est également un épisode qui réserve son lot d'anecdotes sur des légendes du tennis, toujours racontées avec beaucoup de malice, par une femme solaire et passionnée. Bonjour Corinne Dubreuil.
Salut.
Oh, je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode.
Bah, ravie.
Alors du coup, je vais avoir une première question qui est très simple, mais comment tout a commencé en fait? Comment t'as commencé ta carrière de photographe dans le sport?
Bon, alors l'histoire est sympa. J'étais toute petite, j'avais 11 ans, j'avais un oncle passionné de photos. Et un jour, il m'a mis son appareil photo dans les mains, c'était un Canon. Et puis je me suis amusée à enlever l'objectif, remettre l'objectif. Oh, je trouvais ça génial.
Ouais.
Donc je joue au tennis déjà depuis l'âge de 6 ans, mais dans un club niveau moyen. Mais bon, je m'amusais, je passais beaucoup de temps. Et quand j'ai eu cet appareil entre les mains, j'ai dit « je veux être photographe de tennis ». Donc j'ai dit à mes parents, bah voilà,
dès 11 ans.
Bon, après on dit ça, hein, après j'aurais pu faire autre chose. Et puis bon, j'ai grandi, j'ai fait des photos, j'étais dans un club photo. Et puis pour mes 15 ans, je me suis payé une place pour aller à Roland-Garros.
D'accord, toute seule, avec tes
Toute
sous.
Seule, voilà, comme une grande. et donc je suis arrivée là-bas avec mon appareil photo, je suis allée sur le court numéro 1. Et j'ai vu une joueuse qui s'appelle Chris Evert. Et j'ai dit, waouh, j'adore. Et j'ai tout fait pour essayer de la rencontrer. J'ai fini par la rencontrer, par avoir un autographe, etc. Et je suis devenue, comme on dit gentiment, fan.
Okay.
Et puis, je l'ai bien connue, même très bien connue. J'avais son numéro de téléphone chez elle. Donc, je l'appelais. Et je lui disais, voilà, en anglais, évidemment, avec mon anglais de l'époque. Hein, quand on a 15-16 ans, c'est pas terrible, mais j'arrivais à me faire comprendre quand même. Et je lui disais, bah, voilà, j'aimerais bien aller à Wimbledon, j'aimerais bien aller là. Et elle me donnait des places pour rentrer dans les stades. Donc, ça a commencé comme ça.
Comment t'as été amenée à vraiment créer un lien avec elle? Parce que moi, j'aimerais bien, hein, en tant que spectatrice, essayer d'aller voir...
Alors, c'était il y a 30 ans. Hein. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça pourrait se passer. Mais à l'époque, en tout cas, ils étaient accessibles. Et puis, je me suis renseignée. Je suis allée à son hôtel dans Paris. J'ai attendu qu'elle arrive. J'ai demandé un autographe. Je faisais signer des photos que j'avais fait d'elle, etc. Puis, j'étais avec une copine à l'époque. Et qui parlait bien mieux anglais que moi, donc ça a sûrement facilité les choses. Et puis un jour, elle nous a conviés à boire un pot avec elle, etc. Voilà, ça s'est passé naturellement.
Incroyable.
Et ouais, non, c'était vraiment chouette. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand je la croise, c'est rigolo, on se tombe dans les bras. Enfin, c'est vraiment une histoire sympathique. Et puis donc, quand j'allais sur ces tournois, je faisais des photos et je les vendais à des particuliers. À l'époque, il y avait un journal qui s'appelait parce que il n'existe plus, Tennis de France. Donc, j'avais mis des annonces en disant, voilà, je vends photos Evert, Graf, Becker, Edberg, etc. 10 francs la photo. Et comme ça, je me payais mes petits voyages.
D'accord.
Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, donc là, on est en 87. Donc, j'ai 16 ans exactement, en fait, la première fois que je vais à Roland-Garros. Et puis, par la suite, bah, je suis allée à Wimbledon, à l'US Open, et j'ai proposé des photos à Tennis Magazine. Ouais. Mon rêve, c'était...
Qui existe toujours, d'ailleurs.
Ouais, peut-être pas pour très longtemps, mais qui existe toujours. Ouais. Mon rêve, c'était d'être photographe à Tennis Magazine. Et donc, je leur ai proposé des photos, ils en ont fait paraître quelques-unes. Et puis, je crois que c'est en juillet 1990, donc 3 ans plus tard, une des personnes à Tennis Magazine m'appelle et me dit « Voilà, Corinne, il va y avoir une place libre en septembre pour faire photographe iconographe. Mmh. » Oh, donc là, c'était le rêve qui se réalisait.
T'étais encore hyper jeune, en fait, du
coup,
à l'époque.
Ouais. Bah, en 90, j'avais 19 ans.
Ouais.
Voilà, donc j'allais à l'école, hein, je loupais un peu les cours, merci papa, merci maman parce qu'ils m'ont fait confiance, j'ai loupé pas mal de cours, j'ai passé mon bac, et juste une petite anecdote, donc je passe mon bac une première fois en 1989, je ne l'ai pas, la deuxième année, mes parents m'autorisent à le passer en candidat libre,
Et
au moment des résultats, je suis à Wimbledon. À l'époque, il n'y a pas le tunnel sous la Manche, il n'y a que des avions. Et donc, j'appelle ma maman qui me dit « Corinne, tu dois absolument rentrer, il faut passer au rattrapage. » Manque de chance ou par chance, à voir pour un... Air France était en grève, donc je ne suis jamais rentrée.
Okay.
Je n'ai jamais passé le rattrapage et 2 mois plus tard, j'ai commencé à Tennis Magazine.
Incroyable.
Voilà, ouais, l'histoire est sympa.
C'est top. Et donc, du coup, alors c'est fou parce que tu dis que tu avais pris un billet à 15 ans pour Roland-Garros. Et t'es avec ton petit appareil photo déjà, tu pouvais faire ça.
Bien sûr, oui. À l'époque, c'était beaucoup moins réglementé qu'aujourd'hui. On pouvait faire des photos, rentrer avec un appareil photo. Donc, j'allais surtout sur les cours annexes pour être le plus proche possible des joueurs. Et puis, je les faisais à l'entraînement. Donc, je faisais des attitudes, des portraits, des choses comme ça.
T'étais pas sur le terrain.
J'étais en dehors du terrain, quoi, avec le public, hein, normal. Mais même dans le public et encore aujourd'hui, d'ailleurs, pour les passionnés de photo, on peut faire de très belles choses et de super photos en étant dans le public. Moi-même, quand je suis à Roland-Garros, je suis très souvent au milieu des gens, quoi. Pas forcément assis sur le banc, pas toujours en tout cas.
Et c'est marrant, effectivement, cette petite anecdote avec Chris Evert, je l'avais notée parce que je trouvais ça génial. Et en plus, tu as publié une photo sur tes réseaux sociaux, justement.
Il y a la photo de l'époque, hein, de mes 17 ans, puis il y a une photo un peu plus tard, quoi. Voilà.
C'est génial, j'ai trouvé ça incroyable parce que sur la photo, elle mettait... c'était marqué « Thank you for being my friend ».
Ouais. Bon, après, elle est américaine, hein, n'oublions pas. Hein. Mais moi, c'était super sympa, quoi. Franchement, c'était pendant 3 ans, j'ai fait ça. Et non, c'est vrai qu'elle est quand même à l'origine, on va dire, de ce que je suis devenue aujourd'hui, quoi, photographe dans le tennis, quoi.
Du coup, juste pour rappeler, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas des professionnels du tennis, Chris Evert, elle a 18 titres du Grand Chelem. Ouais. Elle est considérée
c'est une super championne, quoi.
Une des meilleures joueuses du tennis de tous les temps.
Exactement. À l'époque, c'était le duel Evert-Navratilova. Mmh. Elles ont dominé le tennis pendant des années. Alors, elle a le record ou elle a eu... Non, je crois que c'est Steffi Graf aujourd'hui qui a gagné le plus de titres à Roland-Garros. Mais longtemps, Evert a eu ce record. Et voilà, je pense que c'est vraiment une grande championne et puis une personne avec un grand cœur, quoi.
Pour revenir à la jeunesse, parce que c'est une histoire qui est incroyable. C'est-à-dire que dès toute petite, tu savais déjà ce que tu voulais faire, en fait.
Ouais, bah, j'ai toujours baigné dans le sport, le tennis en particulier, j'adorais ça.
T'as des parents qui étaient sportifs à la base?
Mon père, ma maman pas du tout, mais mon père, oui, il jouait au tennis tout le temps. Donc j'étais fourrée au club de tennis. Et puis, quand j'ai découvert la photo, je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Je vais pouvoir allier mes deux passions, le tennis et la photo. Et donc, ça a vraiment commencé comme ça. Après, mes armes, je les ai aussi faites dans un club photo. Mmh. On apprend beaucoup de choses. Ouais. À mon époque, donc là, on parle d'il y a 30 ans, le numérique n'existait pas. Donc, on faisait des diapositives ou des films négatifs. Et donc, il fallait être, pile poil, quoi. L'erreur, elle n'était pas tellement permise, quoi. Si la photo est sous-exposée, donc trop sombre, elle n'existe pas. Si elle est trop claire, pareil. Donc, il fallait être assez rigoureux sur la technique. Et je pense que par la suite, ça peut aider pour faire des choses, justes, quoi.
Donc, tu t'es formée toute seule et en même temps, tu as pris des cours à côté?
Ouais, voilà. Dans un club photo, c'est sympa parce que vous touchez à plein de choses différentes. On faisait des photos la nuit. On avait un labo photo, donc je développais des photos. Vous savez, les bains là qui révèlent l'image.
Ouais.
Ensuite, sous l'agrandisseur, vous faites. Enfin, vous voyez vos photos. Enfin, c'est génial. Quoi. C'est vraiment. C'était le Photoshop de l'époque, quoi. Mais un peu plus passionnant, je trouve.
Et un petit peu plus lent aussi, du coup.
Aussi, ouais. Donc, c'était vraiment très sympa. Et puis, quand je suis arrivée à Tennis Magazine, donc en septembre 90, là, il y avait le photographe du magazine qui s'appelle Serge Philippot, qui est devenu mon mentor. Je suis restée là-bas pendant 13 ans. Donc, je pense que c'est lui aussi qui m'a appris les bases, quoi, la rigueur, l'organisation, être bon tout de suite, au bon endroit, etc. Et puis après aussi, ça s'apprend avec le temps, en observant le jeu. Je pense que c'est hyper important de connaître ce que l'on photographie. Mm-hmm. Je pense qu'on gagne un temps fou à plein de niveaux. Et puis voilà, quoi.
Et du coup, là, maintenant, tu as dit que tu avais bossé Tennis Magazine.
Oui.
Quelle était la suite de ta carrière après, derrière ?
Donc, je suis restée 13 ans là-bas. C'était franchement super. Bon, à la fin, pour différentes raisons, il était temps pour moi de partir. Donc, je me suis lancée freelance. Mm-hmm. En restant dans le tennis, j'avais quand même quelques contacts. Et puis, ça s'est plutôt pas mal passé. Et depuis, voilà, je fais ça. Donc, le fait de partir, de quitter ce magazine spécialisé, j'avais aussi envie de toucher à d'autres sports ou la photo un peu plus généraliste. Et par exemple, j'ai beaucoup travaillé pour l'équipe ouais. magazine, un petit peu moins aujourd'hui. Et ça m'a permis de toucher à d'autres sports, de rencontrer d'autres sportifs, de faire du portrait, du reportage, des choses en studio. Pas que de l'action forcément pure et pas que du tennis non plus.
Juste pour qu'on puisse un peu se projeter, toi, ta vie, elle ressemble à quoi, en fait, finalement ? Parce que tu dois voyager beaucoup, tu fais le tennis, tu fais tous les grands chelems ?
Voilà, alors je fais les 4 grands chelems, okay. Le premier étant en Australie, en janvier, c'est plutôt agréable. L'avantage du tennis, c'est qu'il suit le soleil tout au long de l'année. Voilà, moi, je suis plutôt 50 degrés que moins 20, donc ça tombe bien. Et il y a les 4 grands chelems, l'Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Ouais. Après, il y a d'autres épreuves que je suis, comme la Fed Cup, qui est la Coupe Davis chez les femmes, la Coupe Davis. Il y a d'autres gros tournois aussi qu'on appelle des Masters 1000, qui regroupent les hommes et les femmes. Il y en a un prochainement en Californie, Indian Wells, où je vais aller pour la première fois. Donc, je suis hyper contente. Ça, c'est chouette. Et puis, après, on est aussi amené à aller sur des événements parce qu'un client va passer une commande ou ce genre de choses. Ouais. Mais aujourd'hui, on va dire que je connais mon programme à l'avance. Je sais où je vais, je sais ce que je vais faire, je sais à peu près pour qui. Ce qui n'était pas forcément le cas au début quand j'ai commencé en freelance.
Ça allait être ma question, justement. C'est toi qui choisis là où tu veux aller, j'imagine que c'est les deux, mais où tu te déplaces parce qu'on te demande si tu as des commandes, etc.
Ouais, c'est un peu les deux. En fait, les gros événements, c'est là où il y a le plus de demandes, on va dire. Moi, je travaille très régulièrement depuis 15 ans, depuis que je suis freelance pour la Fédération française de tennis. Ouais. Donc, du coup, eux sont intéressés par les grands chelems. Donc, quand je pars, je sais que je travaille pour eux, mais pas exclusivement. Donc, je peux aussi travailler pour une marque ou pour un journal. Je dépose mes photos aussi dans une agence. Mm-hmm. Donc, je les dépose. Ils les vendent, c'est bien. Ils les vendent pas, tant pis. Enfin, c'est mieux quand ils les vendent. Et après, ça repose aussi souvent sur les résultats des joueurs. Je travaille beaucoup avec un journal suisse qui s'appelle L'Illustré. C'est un magazine suisse hebdomadaire, un peu l'équivalent, on va dire, de Paris Match chez nous. Donc souvent, ils me passent commande quand les Suisses réussissent bien, notamment les Federer, les Wawrinka. Mmh. Donc ça, c'est des surprises qu'on ne peut pas anticiper. On ne sait pas qui va gagner à l'avance. Tout ça, c'est des petites choses qui s'ajoutent. Mais quand je pars, je sais que je pars... je gagne ma vie. Je n'y vais pas uniquement pour me faire plaisir. Voilà. Donc, le programme, il est connu, mais on peut plutôt ajouter des événements qu'en enlever. Voilà, on va dire ça.
D'accord. Parce que oui, du coup, effectivement, moi, je me disais, c'est quand même finalement des frais de dingue, parce que tu voyages tout le temps. Ça, c'est sur tes propres...
C'est moi qui engage les frais. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux partir en ayant des commandes sûres, quoi. Sinon, on s'en sort pas. Après, c'est au début, ça fait un peu peur parce que on part un peu dans l'inconnu. Mais avec le temps, à la fois, on connaît les événements et puis les clients vous connaissent aussi. Donc, les choses se font naturellement.
Une vie de dingue. C'est sympa. Quand même vie perso, vie pro.
On y arrive sans problème. Surtout quand on a son programme à l'avance. Ouais. Je sais que je suis pas là un tiers de l'année. je suis sur Paris un tiers de l'année. Et puis, depuis quelques temps, j'aime beaucoup aller à Biarritz, faire des photos aussi, mais d'autres photos. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, je me partage entre les trois et ma vie perso va très bien.
Tant mieux, écoute, tant mieux. J'avais une petite question aussi, du coup, sur ce métier-là. Est-ce que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence? Moi, je ne me rends pas trop compte. Le métier de photographe, maintenant, c'est un métier où on a l'impression que c'est facile d'arriver. Voilà, c'est un peu dans les représentations des gens, c'est que c'est facile de devenir photographe. On achète un bon appareil, on prend des cours et on peut devenir photographe sans forcément faire d'études pour. Ce qui est, en soi, je pense, faux. Mais en tout cas, c'est un peu, je pense, que les gens se disent. Est-ce que tu te rends compte là qu'il y a, y a de la concurrence?
Oui, on est nombreux, ouais, bien sûr. L'arrivée du numérique fin des années 90, début 2000, a beaucoup changé la donne. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire de bonnes photos en ayant du matériel correct. Ouais. Maintenant, ça ne fait pas tout. Le matériel ne fait pas tout, heureusement. mais c'est vrai qu'il y a une grosse concurrence. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes personnes qui sont là. Et que y a quand même, heureusement, le savoir, la qualité, les connaissances qui feront à l'arrivée que on n'est pas 500, quoi. On est une vingtaine de photographes à suivre le tennis.
Ok.
Une vingtaine dans le monde. Après, sur les tournois, on est
une
bien plus.
Dans le monde, donc c'est très
une
peu.
Vingtaine à suivre le circuit. Ouais, d'accord. 20-25. Vraiment de personnes spécialisées dans la photo de tennis. Donc d'un peu tous les pays, hein, des Anglais, des Américains, des Italiens, des Espagnols. Et après, sur chaque événement, vous avez évidemment bien plus d'accrédités que 20. Mais voilà. Donc oui, non, la concurrence est quand même rude. Il y a aussi la concurrence des agences, des grosses agences. Une machinerie comme Getty, par exemple, ne fait pas que du bien aux freelances. Maintenant, à nous de montrer que le client a tout intérêt de venir vers nous. On est là pour ses petits soins. On l'écoute, on a un vrai dialogue. Et je pense que c'est peut-être ce qui peut faire la différence de temps en temps avec les grosses agences.
Tu disais qu'il y avait une vingtaine, enfin, j'avoue que je suis assez surprise du nombre parce que je pensais qu'il y avait quand même un peu plus de photographes, surtout à niveau mondial, une vingtaine. La petite question subsidiaire, combien de femmes parmi les photographes?
On est bien plus nombreuses aujourd'hui que quand j'ai commencé, ça c'est sûr. Moi je me souviens quand j'étais jeune, donc effectivement quand j'avais 15-16 ans, il y avait moi je me souviens d'un nom, une femme, une américaine qui s'appelait Carol Newsome, et je regardais ses photos en rêvant, quoi, en disant voilà, j'aimerais bien être elle. Aujourd'hui on est quand même plus nombreuses, même en France il y a plein de femmes photographes, hein, dans tous les domaines, et dans le sport, dans le tennis, on est bien une, c'est pas énorme, une petite dizaine à suivre plus ou moins le circuit quand même, quoi. Donc, on n'est pas 10 sur 20, mais on est quand même quelques-unes, quoi. On n'est pas deux.
Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que le métier de photographe, c'est un métier qui n'a pas de genre. Hein. Les femmes sont autant photographes que les hommes. Mais je me posais véritablement la question dans le sport, s'il y avait quand même un...
Après, ce qui est dur dans le sport, pour une femme, je trouve, c'est le côté physique.
Ouais.
Voilà. C'est pas tellement le côté artistique, etc. Au contraire. Non, mais trêve de plaisanterie. Je trouve que ce qui est vraiment dur, c'est physiquement, par exemple, sur un tournoi du Grand Chelem, je me suis amusée là pendant l'Open d'Australie à voir combien de kilomètres j'avais fait avec le poids. Le poids à peu près qu'on a tous les jours sur le dos, c'est 15 kilos.
D'accord.
Et en moyenne, j'ai fait, je crois que sur les 14 jours, j'ai fait 190 kilomètres. 240 000 pas, enfin voilà, c'est des petites anecdotes.
Tu fais un ultra trail.
Ouais, non, c'est pas mal. c'est quand on a un peu de poids à perdre, c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment très bien. Donc voilà, ça, ce côté-là, ça peut aussi éliminer certaines personnes, quoi.
Ouais, en fait, t'es obligé d'avoir une condition physique qui est vraiment optimale.
Ouais, il faut quand même être bien, quoi. Si on est un, ouais, si on n'est pas au meilleur de sa forme, ça peut être compliqué. Et puis il y a aussi la notion de météo, enfin la température, comme je disais. Il fait souvent chaud là où on va. En Australie, il peut faire facilement 40-45 degrés au bord du court. Quand on est 12 ou 14 heures par jour à courir à droite à gauche, il vaut mieux être en forme.
En bonne forme physique, ce qui pourrait du coup peut-être entre guillemets, faire une sélection naturelle de profils.
Même si après, je pense que si demain, une femme a envie d'être photographe dans le sport ou dans le tennis, même si... un petit peu costaud, elle y arrivera. Mais Ouais, c'est un élément à ne pas négliger quand même.
Quel est le regard, toi, justement, de ton entourage sur ton métier? Parce que tu as un métier d'image. Tu postes sur les réseaux, tu as un compte Instagram où tu postes tes photos de ton travail, etc. Bon, pas que, mais où tu postes tes photos avec Roger Federer, avec Kylian Mbappé, avec voilà, des énormes stars du sport. Qu'est-ce qu'ils en pensent, justement, tes proches? Est-ce qu'ils se disent waouh, c'est génial, tu contactes des stars, etc. Est-ce qu'il y a un côté un peu envieux ou,
En fait, ils sont surtout et d'abord content pour moi que je puisse faire ce genre de photos, ce genre d'événements, rencontrer des gens ou partir à l'autre bout du monde. C'est souvent ça la question. Bon alors Coco, tu pars où là? Ouais. Et voilà, ça, bon, ça leur plaît bien. Après, il y a l'autre côté aussi, je suis pas là souvent. Donc ça, c'est le côté moins fun. Après, ils ne sont pas du tout envieux. Ils sont plutôt super contents pour moi. Ils suivent plus ou moins. Enfin, plus ou moins ce que je fais. Après, quand je rentre de voyage, bah oui, on se voit. On se raconte les trucs, les petites anecdotes, les choses qu'on ne voit pas sur Instagram ou les choses qui ne se voient pas sur les photos.
Ils ont de la chance, du coup. Ils savent. Ouais, voilà.
Ils ont les petites anecdotes. Non, mais... C'est vrai que c'est un métier quand même qui fait rêver les gens, il ne faut pas se leurrer. On est toujours dans des endroits sympas, on rencontre des sportifs qui nous font rêver. Et voilà, c'est un privilège. Moi, je le sais, chaque jour, je mesure la chance que j'ai de faire mon métier. Et voilà, donc avec mes proches, ben oui, je partage ces moments-là qui sont ma vie, en fait.
Comme dans tous les métiers.
Exactement.
Mais
ouais.
Tu as déjà remarqué, c'est que, bon, je creuse un peu là-dessus, parce que c'est un sujet qu'on aborde quand même assez souvent. Toi, en termes de clients ou même entre les photographes, il n'y a jamais eu de différence de traitement, ou même positif, c'est-à-dire, ah bah, tu es une femme, donc tu es peut-être plus créative, ou tu vas.
Non, je ne pense pas que ça tienne au fait qu'on soit un homme ou une femme. Maintenant. Là où je peux voir la différence, c'est peut-être qu'on est plus souvent sollicité par les médias parce que c'est moins courant d'avoir une femme photographe dans le sport. On voit plutôt, c'est plutôt un milieu d'hommes, hein, faut pas se mentir. Au bord d'un terrain de foot, je pense que le pourcentage de femmes est pas très élevé. D'une manière générale, même si on a plus aujourd'hui. Le pourcentage de femmes, je sais pas, ça doit être 10-15%, ce qui est pas... je pense pas plus. D'accord.
Donc finalement, en fait, le fait d'être une femme dans ce milieu-là, c'est limite plus de visibilité, t'émerges en fait.
Après, effectivement, un client, il peut dire, je vais aller rechercher cette sensibilité-là. Je sais pas, ça peut jouer. Ça peut jouer aussi dans le contact avec les sportifs, parce que c'est important aussi pour on va dire, durer, pour la confiance, la confiance, j'entends, entre le sportif et le photographe. Parfois, on peut aussi nous commander des sujets parce qu'on est une femme ou parce qu'on a aussi un bon contact avec les joueurs. Je sais que ça arrive souvent. Donc voilà, je pense que c'est un tout.
Du coup, tu parles du contact avec les joueurs, c'est un sujet qui est hyper intéressant parce que t'es photographe, mais ça ne s'arrête pas, j'imagine, au fait de prendre une photo, de rentrer chez toi, de traiter tes photos, même si c'est, j'imagine, la plupart de ton travail. T'as un lien aussi qui se crée avec les joueurs au fur et à mesure. Ça fait des années que t'es sur le circuit. Tu le sens quand même que finalement, t'es plus qu'une photographe. Mais...
Oui, à force de les voir, on se dit bonjour. On peut aussi tisser certains liens d'amitié, même s'il ne faut pas se leurrer. On est là pour travailler, chacun travaille, eux ce sont des sportifs de haut niveau, nous on est là pour faire notre métier de photographe, mais c'est vrai que oui, avec le temps, il y a quand même des amitiés qui se lient, quoi. C'est plutôt sympa.
On veut des noms.
Non, mais c'est, alors comme ça fait quand même quelques décennies que je fais ça, forcément j'ai photographié certains joueurs petits, jeunes. Alors, on va parler plutôt des Français. Une personne comme Amélie Mauresmo, qui n'est plus joueuse aujourd'hui, mais...
qui reste une figure majeure
du tennis français. Qui est encore sur le circuit. Aujourd'hui, elle entraîne Lucas Pouille. Voilà, moi, mes premières photos d'Amélie datent de ses 11 ans. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une personne que je connais bien et aussi en dehors du terrain. Après, il y a certains joueurs avec qui on peut collaborer avec l'arrivée des réseaux sociaux.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ils ont, eux, besoin de beaucoup
de contenu.
De contenu. Donc voilà, j'ai quelques accords avec des joueurs comme, par exemple, Kristina Mladenovic ou un Stan Wawrinka. Voilà, c'est des gens avec qui j'ai des bons feelings. Joe Tsonga, Joe Wilfried Tsonga. Voilà, donc sur l'année, on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Voilà, c'est sympa.
Ok, j'aimerais bien revenir du coup sur Amélie Mauresmo parce que c'est complètement dingue. Tu me dis que la première photo que tu as prise d'elle, ça date de ses 11 ans.
Ouais.
Donc en fait, finalement, vous avez grandi et vous avez fait évoluer vos carrières en même temps.
Ouais, on a une sorte de carrière parallèle, c'est rigolo. Dingue. Donc, non, c'est sûr que j'ai. Je pourrais faire un livre, tiens, d'ailleurs. Non, c'est peut-être un peu tard, mais c'est vrai que je l'ai vu évoluer, grandir, gagner, pleurer, être maman, entraîner sur la chaise de capitaine de Fed Cup, etc. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment super, très intéressant, sympa. Et voilà, après, c'est rare, hein, tous les joueurs, enfin, on ne tisse pas des liens d'amitié avec tous les joueurs.
Bien sûr.
C'est vraiment.
Là, j'imagine que c'est un contexte qui est bien particulier avec Amélie et qui doit te faire des souvenirs de dingue.
Ouais, c'est rigolo. Des fois, on parle de certaines anecdotes parce qu'il y en a un paquet. Et on rigole bien. C'est marrant de se remémorer effectivement cette époque, ses débuts. Ah, il y a des photos qu'elle aime plus ou moins, forcément.
Tu parles d'anecdotes, du coup, quel type d'anecdotes ? J'ai envie de savoir, je suis curieuse.
Non, je me souviens d'une anecdote, notamment lorsqu'elle gagne son premier tournoi du Grand Chelem en 2006, en Australie. Donc, c'était vraiment génial, c'était la fête, et elle sort du terrain, je la croise, et là, on se tombe dans les bras, et elle me dit, tu rentres avec moi, on fait des photos, etc. Paris Match avait déjà fait savoir qu'ils étaient intéressés. Et donc, on a fait un sujet super sympa. On est rentrés ensemble, l'avion, le lendemain à l'hôtel en Australie. Et voilà, ça, c'est un très, très bon souvenir inattendu de reportage. Quoi.
C'est top. Et c'est vrai que je suivais dernièrement, parce que c'est la dernière actualité sur la Fed Cup, parce que c'était les quarts de finale, c'est ça ?
Ouais, le premier tour, mais c'est un quart de finale.
Ouais, c'est un quart de finale.
C'est un quart de finale.
En particulier, effectivement, chez les femmes. Et on voit, je suivais pas mal tes photos, et t'es vraiment dans le cœur de l'action, en fait.
Ouais.
Là, pour le coup, tu les suis vraiment de l'intérieur. C'est même plus, t'es même plus photographe de terrain. C'est
là, ce qui est sympa, c'est que
quasiment.
Ouais, c'est vrai. On est vraiment au cœur de l'équipe, ce qui est rare. Mais en fait, avec la Fédération française de tennis, pour qui je travaille, effectivement, on a cet accès-là. Pour eux, c'est important aussi de montrer l'envers du décor, hein, pas uniquement les coups droits et les revers. Donc, ça permet effectivement de montrer les filles à d'autres moments que sur le terrain, pendant les préparatifs ou avant d'aller à un dîner officiel, par exemple, quand elles ont séance de maquillage et de coiffure. C'est toujours c'est super sympa à photographier. Elles sont détendues. Voilà, c'était aussi particulier cette semaine de Fed Cup parce qu'il y avait le retour dans l'équipe de Caroline Garcia, qui n'avait pas joué depuis 2 ans, etc. Donc, c'était particulier, mais hyper intéressant. Et puis, une très belle semaine qui s'est terminée par une victoire 3-0 sur les Belges. Donc là, les Françaises vont accueillir en avril la Roumanie.
La Roumanie, ouais.
Avec Simona Halep, qui est numéro 2 mondiale. Donc, ça va être super intéressant. Et voilà.
Moi, j'y crois dur comme fer. Là, j'étais à fond sur les quarts de
finale.
Mais
oui, allez les bleus.
Ça va le faire, j'y crois. Et toi, en tant que photographe, est-ce que tu as des joueurs que tu préfères photographier ou...
Bien sûr. Ouais, non, forcément, il y a des joueurs que l'on aime plus que d'autres, hein, pour différentes raisons. En termes de photos, j'adore photographier Rafael Nadal ou Serena Williams, parce que ce sont des joueurs vraiment expressifs. Il se passe toujours quelque chose. Et puis, ils sont d'immenses champions, quoi, vraiment. Après il y en a d'autres, hein, Federer, Djokovic ou des moins connus qui sont tout aussi photogéniques, mais c'est vrai qu'on va avoir tendance à passer plus de temps à photographier les meilleurs que d'autres. Et voilà, moi, j'ai un petit faible, effectivement, pour Nadal et Serena.
Et alors, t'as fait un livre sur Federer ?
Tout à fait, mais j'aime beaucoup Roger Federer aussi.
Pourquoi, du coup, avoir choisi de faire un livre sur, sur Federer ?
Alors, en fait, l'année dernière, Federer fêtait ses 20 ans de carrière. Et ce fameux journal suisse, ce magazine, l'illustré en début 2018, m'a dit, voilà, Corinne, on prépare un numéro spécial, un numéro entier sur Roger, et on aimerait beaucoup te consacrer, je sais plus, une dizaine de pages sur tes photos. Tu l'as suivi tout au long de ces 20 ans. Donc voilà, on aimerait que tu nous sélectionnes 20 photos et que tu nous les commentes. Mm-hmm. Donc du coup, je me suis replongée dans 20 ans de photos. Donc, ça m'a pris un peu de temps. Et puis donc, je suis retombée sur des photos que j'avais un peu oubliées. Et je me suis rendu compte que la première fois que je l'avais photographié, c'était en 1998, à Wimbledon. Il était junior. Donc, en fait, j'avais ces 20 ans de carrière. J'avais ces 19 titres du Grand Chelem sur 20. Il m'en manquait un, le premier. Et je me suis dit, mais je ne peux pas en rester là. Il y a trop de choses sympas à montrer, à partager.
Trop de matière, en fait.
Ouais, voilà, il y avait vraiment une matière riche. Et j'en ai parlé à l'illustré, donc on m'a mis en contact avec une maison d'édition suisse que je connaissais, et ils ont dit banco, on y va. Donc j'ai, on va dire, fait la trame du livre, j'ai fait la maquette, qui a été reprise après par un DA, dont c'est le métier. Et puis voilà, donc le livre est sorti en novembre dernier, et je crois que ça marche pas mal.
Bon, en même temps, c'est tellement un grand champion.
C'est un immense champion, c'est une icône de son sport.
Incroyable.
Peu importe les, comment dire, à l'arrivée, ce que ça donne, c'est il aura marqué de toute façon, il marque son sport à jamais, quoi.
C'est clair.
Donc je pense que c'était une belle opportunité de faire ce livre et voilà, j'ai eu l'occasion d'ailleurs, pour la petite anecdote, de lui en offrir un à l'Open d'Australie. Donc il était au courant du livre, mais il l'avait pas encore vu. Donc voilà, c'est sympa.
Il était content, il l'a bien accueilli.
Il l'a pris. Je pense que ses enfants ont dû le regarder sûrement avant lui. Mais non, il m'a fait une gentille dédicace. Il était très sympa.
Oui, il y a des photos qui m'ont vachement marqué aussi. Là, on sort un peu du contexte du tennis parce que tu le disais, tu fais pas que du tennis non plus. Je pense que c'était avant la Coupe du Monde.
Oui,
foot.
Grave.
J'ai vu que tu avais photographié l'équipe de France de foot.
Ça, c'était génial.
Les photos sont dingues.
C'était vraiment une super opportunité. C'était pour la Fédération française de foot. Donc, c'était avant qu'il soit champion du monde. Donc, j'ai fait les hommes et les femmes. En fait, ça s'est passé à Clairefontaine. On était trois photographes. Il y avait trois plateaux. Et on les a plus ou moins tous vus passer notre plateau. Et ça, c'était vraiment une expérience incroyable. Et j'y allais avec un petit peu d'appréhension quand même. Hein.
C'est la première fois que tu faisais du foot
Autant de joueurs de foot, oui. J'avais déjà photographié des joueurs de foot, justement pour des portraits, pour l'équipe magazine, du reportage, etc. Mais là, c'était quand même un gros, gros truc, une grosse production. Et fallait pas se planter, on va dire clairement les choses. Et vraiment, j'en garde un souvenir vraiment très sympa. Ils étaient très disponibles, c'est ce que je craignais un petit peu.
Ouais.
Donc, on a eu quand même du temps pour faire des choses, même si c'était un exercice imposé quand même. Il y avait des photos à sortir, quoi, des choses assez précises. Ça reste pour moi un des meilleurs souvenirs récents, et même je dirais, d'une manière générale, de ce que j'ai pu faire. C'était vraiment quelque chose.
C'était dans quel contexte ces photos, elles avaient un but précis ou c'était
Ouais, c'était pour communiquer pour la Fédé de foot avant justement la Coupe du Monde, et puis toute l'année, dès que l'équipe de France a un match officiel ou pas d'ailleurs, la Fédé communique sur les réseaux, donc ils utilisent ces photos, ils font des montages. Si un gars marque un but, la photo sert à ce moment-là. Il y a eu aussi toute une campagne d'affichage, même sur la façade de la Fédération de foot l'an dernier. Il y avait les photos en, je sais pas, faisait 10 mètres, chaque joueur faisait 10 mètres, ils étaient tous là, les 23 ou 24. Donc, non, je pense qu'ils ont bien utiliser toute cette série de photos.
Et justement, si tu devais choisir, moi j'imagine que c'est compliqué, mais un moment de photographie, là en l'occurrence dans le cadre de ton métier, qui était vraiment marquant, tu choisirais quoi ? C'est toujours la question.
Ah non, c'est impossible. Non, de choisir, c'est impossible. Il y a il y a trop de choses sympathiques pour n'en choisir qu'une. Après, des fois, on me demande « Ouais, ta meilleure photo, c'est quoi ?» Alors, j'ai une réponse très classique, très banale. J'espère que je ne l'ai pas encore faite.
Ah.
Pas mal, pas mal.
C'est beau, c'est beau.
Non, voilà, mais évidemment qu'il y a des photos qu'on préfère à d'autres. Enfin...
Mais même en termes de... Alors, du coup, là, je vais sortir de ce spectre-là, mais il y a une question qu'on pose à chaque fois, mais c'est si tu devais donner un moment de sport, donc là, même peut-être bon, dans le cadre de ton métier ou en dehors de ton métier, qu'est-ce que ce serait ? Sinon, on te laisse réfléchir et puis on le redit. On le redit après.
Non, mais si, forcément, il y a des choses qui ne sont pas prévues. Allez, je vais parler de Federer quand il gagne Wimbledon 2017. C'est pareil, le journal L'Illustré me dit « Oui, voilà, Corinne, on voudrait un one-to-one avec Roger, on voudrait faire la couve, trois doubles pages, etc. Tu peux nous avoir quelque chose ?» Je leur dis « Attendez, c'est Federer, c'est compliqué, je vais essayer, mais je vous promets rien. » Donc, je me renseigne, je fais un ou deux mails, etc. Et on me dit « Écoute, viens lundi, donc le lendemain de sa victoire, Federer donne une conférence de presse au stade. » Tu viens, tu attends et puis je te ferai signe. Donc ça, c'est un contact qui me dit ça. Et puis, il me fait signe que c'est bon. Donc, Federer fait toutes ses interviews, la presse, les radios, les télés, etc. Donc, j'attends. Et puis, à un moment, on me dit, viens avec nous, c'est bon, on va le faire. Donc là, je le suis avec... Il y a toute une... On va dire une cour qui est avec lui. Et on passe dans On passe à l'intérieur de Wimbledon, donc ouais. Par les vestiaires, les salons, etc. Et là, j'emprunte le chemin des joueurs qui vont sur le central. Là, je me dis, waouh, ça, c'est un moment privilégié, ça, c'est top. Et on arrive sur le court central. Federer avait une photo à faire. Et puis ensuite, il revient vers moi. Il s'accroupit devant moi avec son trophée. Et je regarde derrière moi, je vois personne, je me dis « Ah ben c'est pour moi !» Et donc, pam, je fais ma photo. Incroyable. Et donc, ça fera la couverture, une double page. Donc ça, c'était sympa comme moment.
C'est super, ouais. Il s'est prosterné devant toi.
J'irai pas jusque-là, mais il a été très pro, il a été très bien briefé. Et voilà, c'est une photo qui a fait effectivement donc, la couverture du journal. Et, tout le monde était très content et ça reste un super souvenir.
C'est génial. Tu parlais tout à l'heure du coup des photos que tu as suivies Amélie du coup pendant des années, donc tu disais qu'il y avait des photos qu'elle aimait moins d'elle que d'autres. Est-ce que justement t'as certains, est-ce que c'est un sujet de discussion justement avec les joueurs, est-ce que t'as certains joueurs qui font plus attention que d'autres
tous.
À leur à leur image?
Mais non, mais tous ils accordent une importance non négligeable à leur image, avec justement les réseaux sociaux, etc. Et c'est, ça arrive tout le temps. Alors, je ne parle pas des photos qui sont faites sur le terrain, voilà. Mais dès qu'on a des sessions en dehors du terrain, des portraits ou n'importe quoi, mais ils regardent direct sur le boîtier, quoi. Ils viennent voir, « Ah, montre-moi, Coco, fais voir. Ah non, là, j'aime pas
Supreme.
Mon profil. » Et par exemple, avec Kristina Mladenovic, c'est très drôle, elle adore faire des photos, vraiment, ça... Donc, c'est super pour les photographes. Elle regarde tout le temps, puis elle va vraiment voir le détail, la petite chose, et dire « Non, mais regarde, là, ça va pas. » Des choses que même moi, je ne verrais pas, quoi.
Ouais.
Donc, non, c'est rigolo, mais tous. Hein. Alors après, il y a aussi une anecdote. Les joueurs sur le terrain peuvent être aussi très pénibles avec les photographes.
Ah ouais ?
On n'en a pas parlé, mais ouais. Ils sont hyper concentrés et ils sont très sensibles à tout ce qui se passe.
Sur le bruit ?
Sur le bruit, ouais, le bruit. Sûr. Et on a un champion du monde, Joe, si tu nous écoutes.
Ah
non,
oui.
il le sait, ouais. Joe Wilfried Tsonga est vraiment l'un des plus sensibles au bruit. Et très souvent, quand il sert, quand il jette sa balle, c'est une très belle photo.
Mm-hmm.
Et on aime bien la faire. Alors, il y a des photographes qui s'éternisent un peu sur ce mouvement. Et s'il est dans un jour moyen ou si ça se passe pas comme il voudrait sur le terrain, il va nous pourrir.
Mais
vraiment nous pourrir. C'est-à-dire, il va arrêter de jouer.
Pendant le match ?
Pendant le match. Il va nous s'adresser à nous. et voilà, il nous fait part de son mécontentement, mais en direct live, quoi. Ouais, ils sont quelques-uns comme ça.
Dans ces moments-là, vous faites quoi ? Vous vous arrêtez ? Parce que ça veut dire que vous arrêtez de travailler, en fait.
Ouais, voilà. Moi, je sais que je fais très, très rarement cette photo parce que j'anticipe, j'ai pas envie qu'il s'énerve.
Ouais.
Après, quand il s'énerve, ça peut aussi donner lieu à une belle photo. C'est déjà arrivé. Ah. Et voilà, bon, ils ne sont pas tous comme ça, mais ils sont quelques-uns, effectivement, à être sensibles.
Soit à l'image, soit au bruit.
Ouais, soit à l'image. Mais à l'image, franchement, ils le sont tous. Ils aiment bien.
T'as déjà des exemples de joueurs qui, après la publication d'une photo, etc., sont, pas forcément publication, mais sont venus dire non, c'est pas possible, enlève ça, je suis trop moche.
Ouais, ça peut arriver. Si, par exemple, vous faites une série de joueuses de tennis en robe et que dans le lot, il y a une joueuse et une photo plutôt rigolote où elle a des pantoufles, par exemple, je ne citerai pas.
J'allais dire, on veut un nom, là.
Ouais.
C'est trop précis.
Et voilà, donc, bon, bah, on retire la photo parce que, oui, effectivement, nous, on trouve ça rigolo, mais par rapport aux autres, à ses copines, c'est moins drôle. Mais non, en général, ils vont pas jusque-là. Mais on peut, nous, en imaginant que la photo est sympa, la publier sur les réseaux. Heureusement, on peut l'enlever rapidement, mais voilà. En général, ça se passe très bien.
Si je devais te demander ta définition du photogénisme, quel serait-il ? Est-ce qu'il y a un sport qui est plus photogénique qu'un autre ?
Ouais, je pense qu'il y a forcément des sports plus sympas à photographier et plus photogéniques que d'autres. On voit souvent de belles photos de natation, de belles photos d'athlétisme, ou encore de la Formule 1. Enfin, on est plus ou moins sensible aussi. Hein. Après, ça dépend des émotions de chacun. Moi, je trouve que dans le sport, ce qui est beau, ce qui est photogénique, c'est l'émotion. Il y a un truc souvent, quand les gens n'ont pas photographié le tennis, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? C'est avoir le joueur avec la raquette et la balle dans la raquette. Pour moi, c'est une photo qui est inintéressante. Je comprends qu'on ait envie de faire cette photo, mais ce n'est pas forcément la photo la plus photogénique, quoi. Photogénique, ça va être effectivement bien connaître le joueur qu'on photographie et montrer une image de lui qui raconte qui il est. Voilà, ça va être ça, une photo photogénique.
Est-ce que tu sais, à un moment donné, quand tu prends une photo, que c'est une bonne photo, que c'est là, il y a vraiment un truc particulier
Des bonnes photos, moi, je trouve qu'on en fait rarement. Enfin, en ce qui me concerne, voilà, je fais plein de photos, mais ça m'arrive rarement de dire « Ah, celle-là, elle est pas mal ». Quand ça arrive, en général, je connais suffisamment ce que je photographie pour me dire « Tiens, il peut y avoir quelque chose ». Et je me souviens notamment d'une photo d'un match de double. Donc, c'était à l'US Open, je ne sais plus quelle année. C'était les jumeaux Bryan.
Ouais.
Donc, ils sont assez connus. Et donc ils jouaient leur 100e finale, je crois, ou un truc comme ça. C'était une finale donc de double homme. Et ils ont comme habitude quand ils gagnent de faire un jump et ils se tapent la poitrine en sautant. Donc je me dis tiens, je vais monter en haut du central et me positionner pour avoir cette photo avec l'ombre par terre quand il saute et tout, sympa. Et je monte, et j'étais pas la seule à avoir eu cette idée. Donc, il y avait d'autres collègues qui étaient positionnés dans l'axe du court. Je lui dis, bon, je vais pas rester là, je vais me mettre latéralement. Donc, je me positionne, on va dire, en hauteur derrière la chaise d'arbitre. Donc, ils gagnent, ils font leur jump, j'ai ma photo, ils vont serrer la main de leurs adversaires. Et quand ils ont sauté, ils ont lâché leurs raquettes. Donc, leurs raquettes sont positionnées sur le court. Ils serrent la main de leurs adversaires. Et là, ils lèvent les bras tous les deux en même temps. Et moi, j'étais en train de cadrer les raquettes. Et je vois les deux ombres des jumeaux, les ombres identiques. Donc, ma photo, c'est les deux raquettes par terre, un fond bleu, le bleu du court, et les ombres. Et cette photo m'a permis de gagner notamment un concours. Okay. Et voilà. Et quand j'ai vu cette photo, quand je l'ai faite, j'ai dit, ça, c'est une bonne photo. Mais c'est rare. Et une deuxième, pour terminer avec notre ami Roger Federer, dont on aura pas mal parlé, quand il gagne l'Open d'Australie, donc son 20e tournoi du Grand Chelem, donc il a le record, si je ne dis pas de bêtises, je dis une bêtise. Donc son 20e tournoi du Grand Chelem, pareil, une commande du journal L'Illustré, donc je me retrouve en tête-à-tête avec lui dans une maison gigantesque en Australie, à Melbourne. Et avant de faire la photo, donc j'avais organisé un peu, j'avais placé une chaise, il allait arriver avec son trophée, etc. Il arrive, il s'installe, il pose le trophée par terre, il me dit « Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer ». Je lui dis « Pas de problème ». Et il va s'installer sur un canapé dans un coin de la pièce. Et là, je me baisse un peu et je vois le trophée au premier plan, lui, dans son canapé au téléphone, décontracté comme... comme rarement on peut le voir, nous en tout cas. Et là, je me suis allongée, direct sur le sol, le trophée au premier plan, Roger dans son canapé. Et ouais, c'est une belle photo. Voilà. C'est une photo qui sort de l'ordinaire et c'est pour moi ouais, parmi mes photos préférées. Okay. Exactement.
Alors là, je vais poser des questions peut-être un peu plus techniques, mais que je trouve aussi intéressantes. Dans ta manière de shooter, est-ce que, en fonction de, bah, justement de la personne que tu vas avoir, tu t'adaptes, tu as des tips particuliers, comment ça se passe en fait ?
En fait, il y a plusieurs choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est bien de connaître le sport qu'on photographie. Et en l'occurrence, le tennis et les joueurs, de bien les connaître, ils ont tous un peu des tics, hein, enfin, ou des choses qui reviennent. Et le fait aussi de bien connaître le lieu dans lequel on évolue, c'est important. Quand un joueur gagne un match, il a tendance, 9 fois sur 10, à se retourner vers son clan. Ouais. C'est avec lui qu'il va partager cette joie. Donc, idéalement, c'est bien d'être dans cet axe-là. Donc ça, moi, j'essaye, quand c'est possible, hein, de capter ce moment et donc d'anticiper, voir où sont les clans, etc. Après, j'aime beaucoup jouer aussi avec la lumière et avec l'architecture du terrain, quoi, ou du lieu dans lequel ça se passe. Donc voilà, c'est tout un ensemble d'éléments qui vont faire qu'on va aller chercher une photo en particulier ou un geste, ou bien connaître ce qu'on photographie, c'est important.
T'as pas peur justement, d'avoir une certaine redondance aussi dans tes photos, et du coup, comment tu fais pour aller chercher justement le petit truc un peu différent à chaque fois, parce que c'est compliqué.
Je sais pas si c'est à chaque fois différent, mais je pense que même si ça peut prêter à rigoler un peu, je pense pas qu'il y ait deux fois la même chose, quoi. Chaque geste est unique, chaque moment d'émotion est unique, chaque lumière. Il y a forcément quelque chose qui va différencier une image de la précédente. Mm-hmm. Et après, ce qui est sympa aussi, c'est quand on peut se le permettre de prendre un peu des risques pour tenter justement une image différente. Alors, ça marche ou pas. Et il y a des stades qui s'y prêtent bien. Par exemple, à Roland-Garros, on a énormément de points de vue différents, ce qui permet justement de tenter des choses. Et notamment, il y a une fosse qu'on aperçoit à la télé. On est au niveau du terrain.
Ouais.
Il y a des trous.
Effectivement, voilà. Les balles d'ailleurs, voilà, passent régulièrement.
Parfois, oui, elles frôlent nos oreilles, voire nos objectifs. Non, jamais été blessée pour l'instant. Et donc voilà, cette fosse peut permettre vraiment de faire de superbes photos et de beaux moments de joie. Je me souviens d'une victoire de Rafael Nadal, je ne sais pas en quelle année, je ne me souviens plus, où je me dis, allez, je tente. J'avais calculé, il faut parfois anticiper ce qui peut se passer aussi, c'est important. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, il va gagner là. Donc, j'étais dans la fosse, je m'étais positionnée au milieu, dans un trou au milieu, et il gagne, et là, il s'allonge pile devant moi. Donc, c'était juste la photo que j'attendais, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ouais. Là, c'était top.
En fait, tu dois être une spécialiste des pronos.
Si on s'amuse entre nous à dire je sens que un tel va gagner en 3-7, en 4-7, machin. Mais voilà, non, après jouer pour faire un pari, non, ça m'intéresse pas.
J'aurais une dernière petite question qu'on pose à chaque fois. Le podcast s'appelle Championne du monde. Quelle est ta définition d'une championne ?
Une championne, je dirais, c'est quelqu'un qui met la barre haut, déjà, qui va forcément faire des sacrifices pour arriver à atteindre ses objectifs. Et, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui aime le partage aussi. C'est un exemple. Ouais, une championne, c'est un peu tout ça.
Merci beaucoup, Corinne.
Avec grand plaisir.
C'était très sympa d'échanger avec toi sur ton métier, sur ta vie. Et puis, on se retrouve peut-être à Roland-Garros.
Allez,
chiche. Te faire coucou.
Ouais, avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Si ce parcours de femme vous a plu, N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.